connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui avec plaisir Brigitte Échaquet-Meunier et Éric Meunier. Brigitte Échaquet, vous êtes enseignante et infirmière. Éric Meunier, vous êtes diplômé d'histoire, bibliothécaire dans un lycée genevois. Vous avez consacré un essai biographique à une femme très exceptionnelle, décédée malheureusement ce 22 novembre, à presque à 101 ans, un très bel âge. Il s'agit de Noëlla Rouget, héroïne de la résistance en Anjou, déportée, mais surtout, et c'est tout l'intérêt de son parcours, apôtre décidée du pardon. Vous avez d'ailleurs titré votre ouvrage paru chez Talendier, un ouvrage de 250 pages vendu 19,90 €, Noëlla Rouget, la déportée, qui a fait gracier son bourreau. Qui était Noëlla Rouget, née Podo, le jour de Noël 1919, à Saumur, dans une famille d'origine vendéenne, profondément catholique, dont le frère aîné Georges est devenu prêtre? Cet héritage familial catholique est déterminant dans ses choix, ses engagements, sa vie, me semble-t-il.
Oui, c'est vrai que c'est un héritage qui pèse beaucoup dans sa vie, peser, ce n'est pas le bon mot, qui compte beaucoup dans sa vie. Elle dira, elle en parlera souvent, elle dira qu'elle a appris de ses parents, de ses enseignants au Collège Saint-Lô d'Angers des valeurs, des valeurs chrétiennes aussi, mais des valeurs humanistes également. C'était une humaniste à nos yeux, Noëlla.
Elle a une jeunesse typique de son époque, des années 30. Elle est presque banale, le parcours d'une jeune fille de son milieu. Elle devient institutrice dans ce collège d'Angers où elle a fait ses études. Elle est heureuse. Et puis la guerre arrive, l'occupation, la défaite. Comment et pourquoi Noëlla rejoint-elle la résistance? À quel réseau va-t-elle appartenir? Quelles sont ses missions?
Alors Noëlla, bonjour d'abord. Noëlla se lance dans la résistance parce qu'elle est outrée de la présence des Allemands à Angers qui avaient fait leur quartier général dans cette ville dans les années en 1940. Elle ne supporte pas l'envahissement de ses rues, elle ne supporte pas de manquer de liberté, notamment le soir parce qu'il y a un couvre-feu, elle ne supporte pas la présence des Allemands.
Et donc, elle choisit de résister.
Donc, elle choisit de résister. Elle ne sait pas très bien comment faire, comme souvent les résistants qui ne savent pas comment se passe en fait l'action de la résistance. Mais elle rencontre quelqu'un et elle se met à d'abord distribuer des tracts. Elle nous raconte qu'elle les distribue dans la rue. Et puis plus tard, elle devient agent de
liaison.
Et elle devient de plus en plus active, en fait, hein, dans la résistance. Elle est dans le réseau Honneur et Patrie, qui est d'origine qui est gaulliste. Et voilà, elle s'est lancée là-dedans, un peu tête perdue. Et elle est donc arrêtée seulement en 1943. Donc, elle a eu le temps quand même de pas mal œuvrer.
Dans l'intervalle, elle va rencontrer un jeune homme, un peu plus jeune qu'elle, instituteur lui aussi, mais dans l'école publique, Adrien Tigeau. Ils vont tomber amoureux. Ils vont se fiancer. Pourtant, aux yeux de la famille de Noëlla, Adrien a un défaut assez grave. Il est communiste.
Oui, il était affilié au Front National, enfin au mouvement, d'abord puisqu'il était instituteur à ce mouvement qu'on a appelé les Normaliens d'Angers, les anciens élèves de l'école normale que Vichy avait fermée. Et ces Normaliens d'Angers sont assez proches du Front National, liés au Parti communiste. Mais comme le dira souvent Noëlla, Tigeau était d'abord un humaniste, lui aussi, avant d'être un communiste. Et elle a utilisé une fois ou l'autre l'expression « communiste de guerre », dans la mesure où, au fond, c'était les circonstances qui l'avaient amené à rejoindre la résistance communiste et pas forcément une conviction profonde pour le communisme. D'ailleurs, il garde des convictions chrétiennes où il les retrouve à un moment donné, si jamais il ne les a jamais abandonnées. Voilà, dans sa lettre qu'il écrit la veille d'être fusillé, le matin même d'être fusillé, en décembre 1943, il dit « Je meurs en chrétien ». Donc voilà, au fond, dans cet Anjou qui est quand même très catholique, on pouvait mêler des convictions sans doute sociales et catholiques.
Vous le disiez à l'instant, 1943, effectivement, c'est le drame, le réseau est dénoncé, Adrien est arrêté, ses camarades vont suivre. Le 23 juin, la Gestapo va sonner à la porte des Podos et arrêter non seulement Noëlla, mais aussi son frère prêtre, Georges, qui sera relâché. Mais que va-t-il arriver à Noëlla dans cette prison d'Angers où elle va passer plusieurs mois?
Alors, elle va passer effectivement 6 mois, dont 3 mois à l'isolement complet. Elle souffre énormément au début du manque de sa famille, du manque de ses chats, du manque de son piano, du manque de sa maison, de ses livres. Mais heureusement, sa famille arrive chaque semaine à apporter un paquet le jeudi. C'est Georges qui se charge d'ailleurs de cette mission pour apporter de l'alimentation parce qu'on n'est pas très bien nourri dans cette prison d'Angers. Et aussi des livres. Elle est incroyable parce qu'elle se met à coudre, à faire des choses, à s'occuper. Et elle a toujours été très enjouée et espiègle. Et je pense qu'elle, avec son charisme que nous lui avons connu, elle se met un peu ses gardiens dans la poche qui viennent bavarder avec elle, parce qu'elle a besoin de parler. Donc ça, c'est pour les 3 premiers mois qui sont très durs. Puis après arrive une camarade qui va l'accompagner après pendant de longues années, parce qu'elles sont toutes les deux déportées ensemble. Et puis elles vont venir à Châteaudet d'ailleurs ensemble aussi.
Plus tard
en convalescence, elle lie une amitié très forte avec, comment elle s'appelle? J'ai un blanc. Yvette Marchand, qui restera avec elle. Elles seront toutes les deux très navrées parce qu'elles ne seront jamais jugées et elles partiront à Compiègne ensemble, puis à Ravensbrück.
Et ce qu'il faut dire, quand elle est en prison, à la prison du Pré-Pigeon d'Angers, Noëlla peut écrire, elle a parfois dit qu'ils étaient au secret. Ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'elle peut quand même communiquer avec sa famille, mais elle est à l'isolement les 3 premiers mois. Mais elle peut écrire, d'abord, entre guillemets, officiellement, les lettres qui sortent, passant par la censure et que ses parents reçoivent, mais aussi, elle découvre très vite les moyens de glisser des lettres clandestines dans un petit pot de beurre que lui ont envoyé ses parents ou dans caché dans l'élastique des culottes qu'elle envoyait à sa mère pour la lessive. Et dans ces lettres clandestines, il y a c'est un trésor, elles sont maintenant aux Archives nationales à Paris, mais c'est un trésor où elle raconte les détails de sa vie de prisonnière, et y compris des choses en effet incroyables. Elle met... Si je vais faire de la couture, alors elle met le patron d'une combinaison qu'elle aimerait refaire. Enfin, il y a à la fois des détails comme ça qui sont incroyables, mais aussi, bien sûr, alors des choses beaucoup plus terribles et lourdes. Lorsqu'elle dit « on m'a confronté à Adrien, je ne l'ai pas reconnu, et tellement il était défiguré, et j'ai eu de la peine à la reconnaître ». Mais on m'a quand même permis de l'embrasser, et ça c'est évidemment un passage absolument tragique de ses lettres clandestines, et en effet elle ne reverra plus Adrien.
Vous le disiez à l'instant, elle pense qu'elle va être jugée, elle s'imagine qu'elle sera libérée, son rôle ayant été minimisé par Adrien et ses camarades. En fait il n'en est rien, elle n'a pas comparu en justice, elle est envoyée directement dans le camp de transit de Compiègne, d'où elle partira pour l'Allemagne. En janvier 1944, elle est déportée à Ravensbrück. L'expérience est proprement terrifiante.
Oui, alors elle nous a souvent raconté que nombre de ses camarades de déportation, ce voyage absolument terrible, elle fait partie du convoi assez fameux des 27 000 dans lequel on trouve aussi Geneviève de Gaulle, qui est d'ailleurs une grande, grande amie de Noëlla. Et dans ce convoi Dillon, la mère de Germaine Dillon, c'est un convoi qui emporte plus de 900 femmes à peu près, près de 1000 femmes. Et c'est ces 3 jours de voyage dans des conditions terribles, dans ces wagons à bestiaux où il y a juste une tinette au milieu du wagon, un peu de paille qui tout de suite tourne à être presque du fumier. Et on se passe cette tinette et il faut faire ses besoins devant tout le monde et on est serré, c'est horrible, quoi. Le voyage est horrible.
Mais l'arrivée est aussi horrible parce que Bien sûr, il y a une mise en scène épouvantable organisée par la Gestapo,
les nazis,
et on les fait descendre violemment de ce train qui est quand même haut, hein, parce que c'est des wagons à bestiaux, donc il y a une certaine hauteur, on les jette par terre et on les malmène et on leur met une lumière épouvantable. Ils arrivent de nuit, mais il y a une lumière épouvantable qui les déstabilise. L'arrivée est aussi tragique. Hein,
les aboiements des chiens,
Tout est tragique, et puis c'est là qu'elle rencontre les premières déportées qui sont déjà dans le camp, et là, elles se rendent compte qu'elles entrent en enfer. Et ça, c'est un moment extrêmement d'immense désarroi et démoralisation, parce qu'elles se rendent compte qu'on va les déshumaniser et les mettre dans la boue, hein, c'est ce que disait Himmler, et c'est absolument tragique. L'arrivée est tragique, vraiment tragique.
Il y a la peur pour soi-même, il y a l'arrachement à sa patrie, l'arrachement à sa famille. Avant de partir, Noëlla a appris psychologiquement, a dû ajouter terriblement à sa souffrance l'exécution d'Adrien. Donc
oui.
Elle est totalement, une autre pour être totalement déstabilisée, pourtant elle va survivre. Comment va-t-elle faire dans les conditions de détention qui sont les siennes? Vous le dites, elles sont terribles. Elle est malade, dénutrie, épuisée, tuberculeuse, mais qu'est-ce qui la soutient? La foi en bonne partie.
Alors, il y a trois piliers dans le soutien. Il y a, comme vous venez de le dire, la foi, la vive foi chrétienne. Il y a la culture et il y a la solidarité. Ce sont les trois piliers de ce qu'elle a trouvé là-bas de meilleur, en fait, pour survivre. Mais c'est compliqué et c'est difficile. Hein. La détention là-bas est terrible. Alors la foi, elle la vit avec Geneviève de Gaulle. Hein. Geneviève de Gaulle le lui dit plus tard dans un petit mémo où elle dit « Te souviens-tu, nous prions derrière le bloc 27, on se cachait. »
C'est juste quand même un aspect à relever. C'est en effet les chrétiennes, d'ailleurs souvent protestantes ou catholiques, se retrouvaient le dimanche, le petit moment de entre guillemets liberté, enfin où on n'était pas astreint au travail, on se retrouvait pour prier, mais c'était évidemment totalement interdit, donc c'était déjà un acte de résistance aussi de prier. Et pour qu'elle puisse le faire, Noëlla nous disait, oui, il y avait une camarade communiste qui faisait le guet pour nous prévenir si jamais les surveillantes arrivaient, qu'on puisse se disperser. Et cette image d'une communiste qui veille sur les chrétiennes, c'est une très belle image qu'il faut garder.
En fait, elles vont, ces femmes, trouver spontanément les armes intellectuelles et spirituelles qui vont empêcher cette déshumanisation que le système nazi veut leur imposer.
Oui, en quelque sorte, mais bon, elles faiblissent quand même. Et l'une d'elles dit une année plus tard, si cette guerre ne se termine pas, on va mourir, parce qu'on est quand même complètement... Elles étaient complètement amaigries, malades, tuberculeuses, avec le typhus. Elles se sont quand même... Beaucoup meurent. Hein. Il y en a beaucoup qui meurent. Et en plus, il y a la chambre à gaz à côté qui a été créée entre-temps et qui fume sa fumée horrible. Donc, tout ça est très déstabilisant et il faut être d'un immense courage, finalement, pour résister encore et toujours. Et d'ailleurs, quand Noëlla sort, elle ne pèse plus que 32 kilos. Elle est tuberculeuse, elle est effroyablement amaigrie et fragile. Oui, quand elle rentre, on peut ne pas la reconnaître. Quoi.
Ce qui la sauve peut-être, c'est qu'elle sort un peu avant la fin de la guerre, en avril 1945, puisqu'avec quelques camarades, elle fait l'objet d'un échange contre des civils allemands détenus en France.
Voilà.
Elle est libérée, mais à quoi va ressembler ce retour? Vous dites en effet, elle pèse 32 kilos, elle est méconnaissable, elle ne tient plus debout, elle est malade. Comment va se faire ce retour en France?
Alors le retour passe par la Suisse, hein. C'est en même temps une joie immense et en même temps une détresse épouvantable parce qu'elle est tellement faible qu'elle se dit qu'elle ne va pas arriver en France. Et elle dit d'ailleurs, mais amenez-moi vite en France en Anjou que je puisse mourir là-bas. Donc elle se sent complètement faible. Et en même temps, elle dit, ce retour est extraordinaire parce qu'on est bien accueillis, on nous fait des petits cadeaux dans le train. En même temps, il y a de la joie, c'est très partagé en fait, hein, ce retour. Et puis elle se demande si elle va retrouver sa famille. En déportation, elles avaient quand même quelques nouvelles. Elles savaient que le quartier de la gare à Angers avait été bombardé. Elle venait de là, donc elle s'imaginait que ses parents étaient peut-être morts, son frère aussi, elle ne savait pas. Donc tout ça engendre aussi un stress supplémentaire.
C'est alors qu'une organisation suisse dans laquelle je crois vos parents, Brigitte et Jacques Émonier, étaient impliqués,
oui,
va proposer des cures de convalescence pour ces femmes qui rentrent de déportation à la montagne. Pouvez-vous nous en parler et nous dire en quoi ce séjour a changé définitivement la vie de Noëlla Poudou?
Alors, elle n'est restée que 3 mois, en fait, à Châteaudet, mais ça, c'était 6 mois après le retour. Hein. Mais pendant cette période du retour, elle était à Angers, elle a été alitée pratiquement tout le temps, et il n'y avait que peu de progrès dans son état de santé. Et donc, son amie Geneviève de Gaulle lui dit, mais va en Suisse, on ouvre des maisons d'accueil pour que tu te ressources, pour que tu reprennes ta santé. Et elle arrive à Châteaudet, qui est un petit village des Préalpes vaudoises. Et là, elle s'installe dans un chalet où il y avait même un évier avec de l'eau chaude dans les chambres. Enfin, il y avait un luxe par rapport à ce qu'elle venait de quitter. Parce que la France, c'était aussi pas tout à fait mirobolant. Hein. La France avait été beaucoup bombardée. Elle se retrouvait dans une maison qui n'était pas la sienne. Enfin. Et donc, elle arrive dans un chalet où on la gâte. On la gâte. La personne qui s'en occupe est une femme que je connais bien puisque c'était ma nounou. On l'appelait Mademoiselle Irène. Mademoiselle Irène était en même temps maternelle et assez stricte. Et elle a accueilli environ 80 femmes qui se sont échelonnées en fait sur une période de 6 mois. Et Noëlla a passé 3 mois, je crois, où elle s'est beaucoup plu dans ce chalet et dans ce château d'Aix. Elle s'est ressourcée dans ce village, elle a lié des amitiés avec des gens dans ce village et pour finalement trouver son mari, ce qui a été vraiment aussi quelque chose d'extraordinaire. Elle ne voulait pas aller à un bal du village et ses copines lui disent « Mais non, tu viens avec nous, et viens danser, viens danser ». Elle dit « Oui, je ne danserai que si ce blond là-bas au fond de la salle vient m'inviter, et puis 2 minutes après, il est devant elle à l'inviter. Et c'est devenu son mari, il s'appelle André Rouget, et donc ça va changer la vie de Noëlla, bien sûr.
Elle s'installe avec lui à Genève, ils ont des enfants, là. On pourrait croire que le passé est oublié, en tout cas son mari se donne beaucoup de mal pour effacer ce passé tragique, jusqu'en 1962, où près de Lille, un homme cloîtré depuis la libération chez sa mère est arrêté. Il a été condamné à mort par contumace en 1945. Il s'appelle Jacques Vasseur. C'est un collaborateur notoire, germanophile. Il a d'ailleurs des origines allemandes. Il a joué un rôle déterminant auprès de la Gestapo d'Angers. C'est lui qui, en 1943, a fait arrêter Noëlla. Et il est également le responsable de la mort d'Adrien. Nous sommes simplement moins de 20 ans après tous ces événements tragiques. Que fait Noëlla Rouget en apprenant l'arrestation du responsable de ses malheurs?
D'abord, c'est son frère qui était Georges Podeau, qui était donc prêtre, et qui voit dans la presse de la région d'Angers, qui voit cette arrestation et qui dit tout de suite, qui a crié tout de suite à sa sœur en lui disant « Tu dois prendre contact avec le juge d'instruction qui a été désigné pour instruire cette affaire, ce que Noëlla fera. » Et donc, elle va être d'ailleurs interrogée d'abord à un moment donné au SRPJ d'Annecy, puis plus tard à Rennes par le juge qui instruit cette affaire, et puis jusqu'au moment du procès qui a lieu, lui, en novembre 1965. Ben, tiens, ça fait juste
55 ans.
Ouais. Voilà, pardon. Et là, donc, elle va aller témoigner à ce procès qui regroupe un nombre considérable de témoins. Et très vite, quand elle rentre d'avoir été témoignée, elle écrit d'abord au président du tribunal, c'était la Cour de sûreté de l'État qui jugeait Vasseur, et elle écrit une lettre. Et là, elle dit clairement son opposition à la peine de mort. Elle dit « Je crains que la sentence pour cet homme soit la peine de mort, et moi, mes valeurs, les valeurs pour lesquelles je me suis battu dans la résistance sont justement pas celles-là, et on ne peut pas devenir bourreau à notre tour, fût-ce par procuration. » Et puis elle dit cette phrase aussi « Vasseur mort, nous serions vengés, certes, mais que pèse le poids de cette mort face à nos milliers de morts, ça ne ferait pas le poids. » Cette lettre est un véritable monument, c'est ainsi que Robert Badinter, quand il en a eu un jour connaissance, l'a qualifiée. Maintenant, on la trouve assez facilement si on recherche Nous l'avons bien sûr publié dans notre livre en intégralité, mais c'est une lettre qui est un monument d'humanisme.
Puis elle va écrire directement au général de Gaulle pour lui demander la grâce de Vasseur, qui effectivement est condamné à mort. C'est
voilà,
un acte extraordinaire, absolument
oui,
extraordinaire, et qui sera très mal compris d'ailleurs par ses camarades.
Voilà. Oh oui, très mal compris, parce que justement c'est aussi ce hiatus qu'il y a eu entre ses camarades qui étaient dans la salle du tribunal et qui avaient des regards furieux et qui voulaient la mort de Vasseur et dont elle entendait des phrases qui étaient pour elle insupportables et ce qui l'a beaucoup encouragée probablement à écrire. Mais évidemment, elle s'est mise à dos beaucoup de ses amis d'Angers qui n'ont pas compris son acte, qui n'ont pas compris à ce moment-là. Alors après, la compréhension a pu venir avec le temps, mais elle a écrit aussi à ses amis une lettre, mais quelques années plus tard, elle a pris du temps pour la réfléchir, incitant ses amis à voir la réalité un peu plus douce et leur demandant de réviser leur jugement en disant « mais nous devrions vraiment… » C'est là qu'elle commence vraiment la construction de l'Europe. On sent qu'elle a changé depuis sa déportation, qu'elle a changé et qu'elle commence à vouloir porter un humanisme partout. Et c'est vraiment très touchant la manière dont elle les incite à aussi, elle, changer.
Elle a sauvé la vie de cet homme.
Alors,
elle a sauvé la vie de cet homme.
Elle a sauvé la vie de cet homme. Elle a commencé une correspondance avec lui, correspondance où elle aurait vraiment souhaité trouver chez lui le brin d'humanité pour qu'il se repente. Mais ça, alors, ça n'a pas marché, on peut dire comme ça. Jacques Vasseur est sorti de prison en 1983. Il n'a plus jamais écrit à Noëlla, ni la mère de Vasseur, qui pourtant, elle avait écrit plus de 30 lettres à Noëlla, hein, lui demandant chaque fois « pourriez-vous nous aider pour libérer Vasseur ou bien pour diminuer sa peine ou bien, etc. » Elle était très, très exigeante, la mère. Jamais plus Noëlla n'a entendu parler d'eux. Et ça l'a, oui, ça l'a beaucoup attristée.
A-t-elle regretté son acte? A-t-elle regretté cet acte de charité extraordinaire?
Non, non, jamais. Jamais. Elle est restée droit dans ses bottes, et lui de même. Non, elle a gardé toujours le fil de cette histoire. Elle a toujours dit, je l'ai voulu, je l'ai fait, je le maintiens. J'aurais voulu, j'ai échoué dans ma tentative, mais je ne regrette rien.
Noëlla Rouget est morte là tout récemment. C'est un exemple assez remarquable qu'il est bon de transmettre à la jeunesse. Brigitte Jacquier-Monnier, Éric Monnier, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie. Je rappelle que vous avez consacré à cette héroïne de la résistance et qui est surtout une héroïne de la charité et du pardon, un ouvrage, Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau, paru chez Talendier. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
À vous aussi. Voilà.